Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure tous les soirs et on est ravis de recevoir le musicien Yaron Herman.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler papi.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Lorsque la batterie entre sur le morceau Our Love, qui ouvre votre dernier disque, Yaron Herman, qu'elle galope avec le piano, qu'il galope de plus belle, s'élargit, se gonfle, comme le sang entre dans un cœur, on n'est pas loin de penser au coup de foudre. À la peinture des sentiments, par degrés, par texture, par moment ou par note, votre disque s'adonne presque méthodiquement à la manière d'un journal de bord qui garderait en mémoire des états par lesquels nous passons. Songs of Degrees, c'est le titre de cet album qui paraît chez Blue Note et qui vous fait renouer avec le trio de jazz, Ziv Ravitz à la batterie et Sam Minay à vos côtés. Mais le cantique des degrés, c'est aussi un ensemble de psaumes qui sont conçus pour être chantés lors des trois fêtes de pèlerinage sur les 15 degrés, c'est-à-dire les marches qui menaient au temple de Jérusalem. Et j'imagine que cette référence n'est pas tout à fait un hasard. Bonsoir Yaron Herman.
Bonsoir, quelle entrée en matière.
N'est-ce pas ? C'est difficile de complètement ignorer l'idée que The Song of Degrees, c'est pas très très loin de cet ensemble de psaumes qui, à ma connaissance, est gravé et fait référence à la tradition de pèlerinage.
En effet, c'est assez intéressant, surtout qu'on peut toujours se situer quelque part dans les étapes qui mènent à cette ascension. D'ailleurs, en hébreu, le mot qui correspond au mot français « degré », se prononce « ma'alot », qui a la racine du mot « élévation ». Donc voilà, c'est donc dans le sens figuré comme dans le sens propre, cette montée, cette élévation, mais qu'est-ce qu'on élève ? Est-ce qu'on élève forcément une offrande ou on s'élève soi-même ? Le temple est-il à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous ? Donc toutes ces questions-là qui évidemment sont intéressantes à se poser.
Le degré, il n'est pas du tout entendu dans votre idée comme quelque chose qui qualifie la chaleur ou qui a à voir avec la température. Il a vraiment à voir avec le nombre de marches qu'on a franchies ou le nombre de pas qu'on a fait ou quelque chose qui grimpe.
Pas forcément. C'est-à-dire que quand on parle d'amour et on parle de haine, on est sur la même émotion, dans des extrêmes différents. Donc c'est-à-dire que c'est juste une question de degré. Donc quelque part, c'est pas forcément une idée physique d'élévation, c'est juste la déclinaison de degrés différents, de différentes choses qui reviennent finalement, on l'espère, avec l'attention, avec le travail, avec l'intention, à une sorte d'unité au bout du compte.
Comme une échelle en fait, c'est quelque chose qui a à voir avec l'échelle.
Ça pourrait. Mais ça pourrait aussi être non matérialisé dans un objet qu'on souhaite ou pas désigner. Ça peut être aussi une sensation.
Vous avez pensé ce disque-là comme une unité. Vous dites avec chance, avec travail, avec pensée. Quelque chose vient comme ça former une unité. Yaron Herman, ça veut dire que ce disque-là, quand il naît plein et entier.
Je pense que comme toute naissance, ça commence par une sémence qui ensuite il y a une phase de germination et ensuite un accouchement plutôt dans la douleur ou pas, mais globalement c'est pas quelque chose qui vient, enfin c'est, après je suis pas un expert sur le sujet, mais il y a quand même un effort à fournir et donc c'est quelque chose qui grandit, qui évolue, et notre travail en tant qu'artiste, en tout cas le travail que j'estime être le mien, c'est le nourrir suffisamment, pas trop, pas du tout, pour qu'il puisse évoluer dans le bon sens et avoir une vie saine.
C'est un album que vous avez peut-être laissé vivre, on y reviendra tout à l'heure, mais puisque tout à l'heure vous disiez finalement, si on parle des sentiments, amour, haine, on se situe presque à deux endroits du pôle, à deux endroits d'un miroir. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette pochette? On ne sait pas trop où est le nord, le sud.
C'est difficile de distinguer le nord et le sud sur une pochette, je vous l'accorde. Mais en effet, il y a cette idée de
vous pouvez la décrire?
De miroir. Bon, oui. alors, il s'agit d'une montagne qui se reflète dans l'eau. Donc, on voit le haut et le bas. Et on se demande, en fait, la question, où est le haut et où est le bas? Et la photo que nous avons choisie est renversée. Elle est inversée, c'est-à-dire que le haut devient le bas et le bas devient le haut. Ce qui rappelle un peu le fameux dicton de Hermès Trismégiste, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose, des tablettes d'émeraude. Donc voilà, un peu de culture sur France Culture. Voilà, c'est la pochette.
And the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. Through the unknown remembered gate, when the last of Earth left to discover is that which was the beginning. At the source of the longest river, the voice of the hidden waterfall, and the children in the apple tree.
Double ouverture pour cette émission et pour ce disque, Yaron Herman, on entend Our Love, le morceau dont je parlais en introduction, et puis ce poème de T.S. Eliot, lu par lui-même, et les enfants dans le pommier, dont vous citez quelques vers comme en préambule de ce disque-là. Que disent les vers que vous avez choisis, Yaron Herman ?
C'est cette idée de voyage intérieur pour moi. C'est ce lieu intérieur qu'on ne cesse de revisiter en permanence, et à chaque fois, on se transmute, on s'élève comme dans des degrés, on va plus vers l'essentiel.
Le poème de T.S. Eliot, dans une traduction très mauvaise que je ferais, mais que, l'idée qu'il ne faut pas du tout cesser l'exploration et qu'à un moment donné, le dernier qui va partir va continuer d'explorer là où était le début, il y a quand même vraiment l'idée d'une figure de cercle, comme ça, de quelque chose qui tourne mais qui ne reste pas sur place.
Plutôt une spirale dans ce cas-là.
Plutôt une spirale, exactement. Mais d'ailleurs, un cercle qui tourne et qui ne reste pas sur place, c'est une spirale. Ça tombe bien. C'est l'image que j'avais en tête. Le morceau, il tourne aussi. Et je disais, il y a comme une sorte d'emballement au moment où la batterie et le piano se rejoignent, comme un emballement du cœur, comme le sang qui va très vite dans les vaisseaux, ou comme la source de la plus longue rivière, la voix de la cascade cachée, qui fait, c'est aussi dans le poème. Comment est-ce qu'il est arrivé ce morceau-là, Yaron Herman ? Et comment est-ce qu'il est arrivé au début ?
Alors, avant de répondre à la question, on a oublié la contrebasse.
Bah,
l'entrée de la contrebasse, pour moi, est fondamentale dans cette sensation de quelque chose qui coule d'une source, qui émerge, donc qui joue dans les aiguilles, en effet, et ça se mélange avec la tessiture du piano. Et
comme souvent, d'ailleurs, sur le disque.
Il y a pas mal de choses qui sont doublées, mais sans être trop appuyées, j'ai envie de dire. C'est pas de la répétition inutile pour créer un effet d'un pseudo-unisson.
Non, mais il y a comme un trouble, comme une sorte de profondeur. C'est-à-dire que c'est doublé, mais c'est pas symétrique.
Oui, c'est-à-dire que c'est une résonance de la même note, mais dans une dimension supplémentaire. C'est comme un écho. Et contrebasse. Voilà, pour le jeu de mots. Pardon.
Je l'ai pas.
Et contrebasse. Donc, une écho, contrebasse, et contrebasse. Voilà, ça c'est ce que...
Je l'ai pas.
Ah bon ?
Non.
Écho, comme un écho.
Écho.
Et contrebasse. Donc c'est les deux mots collés l'un à l'autre. Mais voilà, c'est ce qui se passe quand les étrangers essayent de faire des jeux de mots à la radio. Je m'excuse.
Non, c'est moi qui m'excuse.
Officiellement.
C'est moi qui m'excuse.
On a perdu 10 auditeurs. Ok, très bien, on me dit.
Mais
rayette.
On les aime beaucoup. Ouais. On va en gagner 15 autres, c'est sûr et certain. Et la batterie.
Donc voilà, tout ça, en effet, donc... Revenons à la jeunesse de ce morceau. Focus. Ce morceau est vraiment venu, c'est un peu le cliché de ce qu'on imagine quand un artiste est vraiment un peu déprimé et dans un moment un peu intense et dur de sa vie, qui se met au piano, il y a quelque chose qui se passe.
Et pourquoi pas?
Et classiquement, c'est arrivé avec ce morceau-là. Tard le soir, une journée un peu difficile, enfin plutôt une année un peu difficile. Et voilà, cette mélodie qui commençait à me parler. Donc, je posais les mains sur le piano, je fais 2-3 notes et j'ai pensé à une personne en particulier quand je l'ai écrit. Chose qui arrive assez rarement. Et donc, c'était un peu un dialogue à travers le piano avec cette personne qui n'était clairement pas dans la pièce. Et voilà, je me rappelle avoir même essayé de mettre des mots. C'était vraiment un dialogue avec des mots, sauf que pour chaque note, il y avait un mot qui correspondait un peu l'exercice que John Coltrane a fait pour Love Supreme, qui a commencé par un petit poème où, voilà. Ouais, c'est moi. En effet, c'est... Et je pense que là, la personne qui a mixé m'a dit « Ouh là là, il fallait vraiment que je baisse ça parce que c'était tellement fort. » J'ai dit « Non, au contraire, il fallait vraiment mettre ça en valeur parce que c'est ça la vie, quoi. C'est, l'idée, c'est pas être parfait tout le temps, c'est faire vivre les choses telles qu'elles sont, avec leur fragilité, avec quelque chose qui est sincère, qui est authentique. Donc, je suis content que ça transparaît. »
Ça arrive souvent que ce soit cette espèce, parce que tout à l'heure on parlait de la manière dont la contrebasse ne double pas exactement le piano sur certains morceaux, mais la voix, ça vous arrive souvent de vous surprendre à, non pas chantonner, ce serait un mot trop fort, mais presque, je sais pas, ça vient plus du, en dessous encore de la gorge, quoi.
Oui, ça vient sûrement d'un endroit assez profond dans mon esprit, dans mon âme. C'est un besoin de, je dirais pas de crier, mais d'exprimer quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Et à un moment, il faut juste le faire et pas se demander est-ce que je chante assez bien, est-ce qu'il faut que je travaille ça. C'est quelque chose que, c'est une nécessité. C'est comme respirer.
On entendait ce premier morceau, Our Love, Yaron Herman, de ce disque-là. Et en surimpression, le poème de T.S. Eliot. Ça fait plusieurs années que vous parlez maintenant de votre musique et ça fait plusieurs années que vous répétez combien vous avez une forme de méfiance envers les mots. Et du coup, je suis étonnée d'entendre qu'au moment où Our Love est venu, vous aviez presque envie d'y mettre des mots. C'est quelque chose qui bouge, ça? Comme votre rapport à la musique bouge, votre rapport au langage évolue?
Je pense pas que j'ai une méfiance particulière vis-à-vis des mots. Je pense que chaque chose a sa place et son timing dans la vie. Et quand il s'agit des émotions, en tout cas moi, je préfère me taire et laisser la musique parler, parce que je pense que voilà, les émotions étant des choses plutôt abstraites, mettre des mots là-dessus, c'est forcément les subjectiviser et les rendre un peu voilà, dans une petite case qui peut-être parler à certaines personnes, mais à d'autres pas, etc. Donc on perd beaucoup de choses qui touchent d'abord l'âme, je ne sais pas si ça existe en tout cas, mais pas l'intellect en tout cas, de bypasser un peu tout ce mécanisme suranalytique qu'on adore tant. Et la musique a cette capacité justement de toucher directement le cœur, de toucher le corps, d'avoir un aspect un peu plus direct. Mais mon rapport au langage évolue en effet dans ma vie personnelle et dans mes recherches en tout ce qui concerne le pouvoir de certaines façons de penser, d'articuler sa pensée. Voilà.
Quand les gens veulent vous présenter Yaron Herman, ils rappellent souvent que vous avez été basketteur en Israël et voilà, que quelque chose a fait que vous avez davantage rejoint la musique. Et ils rappellent, un petit peu moins souvent mais quand même, que votre rencontre avec la musique n'a pas rien à voir avec les mathématiques. Alors on écoute une archive de Yanis Xenakis.
Dans les mathématiques, on trouve la clé, ou plutôt des méthodes, sûr de raisonnement qui pourtant existe dans tous les autres domaines de l'esprit, également de la musique. Et tous les compositeurs et tous les musiciens font des mathématiques sans le savoir, depuis toujours, depuis les temps historiques.
Oui, mais vous le faites en pleine conscience.
Alors oui, j'ai été obligé de faire ça en pleine conscience parce que chaque fois que je faisais quelque chose, je me demandais mais pourquoi. Et si on se donne chaque fois une certaine limite, on se dit pourquoi cette limite et pas d'autres limites. Est-ce que le sentiment est intéressant, s'il y a de l'inspiration ou sentiment, comme on dit, c'est une séquelle d'ailleurs du 19e siècle, ou est-ce que je peux aller plus loin et exprimer quoi? Quels sont les problèmes? C'est-à-dire, faire de la musique, en réalité, correspond à se poser toutes sortes de questions, à faire finalement de la philosophie.
1963, une archivina de Yannick Xenakis sur la RTF, ce grand compositeur qui était aussi architecte et mathématicien, Yaron Herman, pour évoquer peut-être une sorte de rencontre croisée pour vous entre le piano et ça. Est-ce que vous êtes las de le raconter? Est-ce que vous en êtes déjà très, très éloigné? Ou est-ce que quand même ce que dit Yannick Xenakis vous parle?
Ah, ça me parle énormément. Il a mis les mots justes sur ce que je pense aussi. Les mathématiques sont un peu le langage qui régit l'univers. Donc évidemment, nous, quand on observe le phénomène, si on a envie de le comprendre, il faut aller comprendre les causes et les effets, les choses qui composent un peu la matrice qui fait qu'on voit certaines choses ou qu'il y a des règles, des lois. Et de manière générale, si on souhaite être créatif et aller au-delà de ce qui est déjà commun, il faut connaître les autres possibilités. Et les mathématiques est l'outil de l'infini. Donc, c'est un outil de créativité absolument unique. Il faut dire que moi, j'étais pas forcément très matheux. avant de commencer la musique. Donc je suis un peu entré dans les maths, et encore à un niveau tout à fait raisonnable. Je suis pas non plus un grand chercheur ou un théoricien. Voilà, donc la musique m'a permis d'un peu investiguer ce monde incroyable.
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens pour qui...
Il fallait comprendre pourquoi et comment. Voilà.
Mais ça veut dire aussi que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a permis de répondre à ces questions-là, ou en tout cas de questionner la musique de cette façon-là.
Oui, mais quelque part, les mathématiques sont des outils pour poser plus de questions, pas pour avoir plus de réponses. Et c'est comme Zena qui s'est dit qu'on rejoint la philosophie à la fin, parce que c'est comme c'est l'outil de l'infini, c'est quoi l'infini? Mais si, où sont les repères? Où sont les limites? Et les limites sont là où on décide de les mettre. C'est-à-dire que c'est ça l'idée de contraintes. Les choses fonctionnent comme n'importe quel jeu. Pour maîtriser le jeu, il faut connaître les règles du jeu. Après, on peut jouer plusieurs jeux à la fois. On peut superposer des jeux. Donc, pour ça, il faut superposer des contraintes. Donc, il faut connaître les contraintes. Et donc, c'est dans cette superposition de structures hyper complexes qu'on peut trouver des proportions, une harmonie, et voilà, une espèce de profondeur qui finit par ressembler à quelque chose qu'on pourrait dire qui est beau.
Parce que pour embrasser la musique, pour vous, il fallait la comprendre au départ.
Étant donné que je commençais le piano à 16 ans, il fallait vraiment que je comprenne comment ça marche très vite et que je puisse par moi-même développer mes propres méthodologies de travail, sinon j'allais jamais, entre guillemets, rattraper le retard. Et j'ai toujours été fasciné par non seulement le comment des choses, mais le pourquoi. Et la musique m'a permis, en effet, de plutôt m'axer sur le comment. Et toute ma manière de penser aujourd'hui découle de cette manière de travailler qui consiste à une méthodologie très organisée, très analytique et très systémique de la pensée musicale.
Et aujourd'hui encore, la musique que vous composez, quels que soient les projets dans lesquels vous vous lancez, Yaron Herman, elle procède de cette approche-là ?
Elle procède de cette approche-là, en effet, mais... Je vois déjà des gens qui se disent ah mais donc c'est forcément très analytique, c'est très cérébral, et l'émotion là-dedans, etc. Ok, j'entends, et la réponse est assez simple. La mathématique est là pour construire la maison. On prépare le réceptacle qui va recevoir l'inspiration. L'inspiration, on peut pas la contrôler. On peut se sensibiliser, on peut devenir plus en contact avec ses émotions, avec son passé, avec le bagage qu'on a hérité de par notre environnement, nos parents, etc. Toutes les choses qu'on véhicule malgré nous ou avec notre expérience de vie. Voilà, les mathématiques, c'est vraiment la construction de la maison qui est faite pour accueillir l'inspiration au moment où elle arrive. Donc c'est pas le but. C'est juste le réceptacle. France Culture, par les temps qui courent, Marie Récheux avec Yaron Herman.
Thank you. appelle un peu la lumière, c'est-à-dire des gens qui donnent de la lumière, quoi. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas trop de me dire on va jouer quelque chose ensemble, par exemple. Comme, ce que je recherche toujours, c'est quelqu'un qui me donne un peu cette lumière, qui va me refaire de la lumière et moi je vais donner. Mais il y a quelque chose d'ultime, c'est-à-dire quelque chose qui vient non pas uniquement de ce qu'on aurait appris dans la musique, mais un tout. Un tout, le corps qui travaille, la tête qui travaille, l'envie, le je sais pas, tout ce qu'on a. Je dis souvent, les gens, est-ce que vous êtes plein de musique ou est-ce que vous êtes à moitié vide ou est-ce que vous n'en avez pas du tout? Je me pose cette question souvent. Si je suis avec ce musicien, je ne vais pas sombrer en me disant qu'est-ce que je fais là. Je vais dans un chemin qui va marcher, qui va couler. D'autres où je suis un petit peu plus inquiet et je me dis ça ne marche pas. Et je pense que souvent, j'ai fait de la musique en me disant il faut que tu te remplisses de quelque chose, d'énergie, de pour que tu sois au point ce jour-là pour déverser tout ça. C'est un trop-plein peut-être. C'est ça ma préoccupation. En fait, quand je fais pas de musique, je ne pense qu'à ça, à me regonfler dans quelque chose pour que ça se jette. Je jette la musique à ce moment-là. Et je dis, est-ce que vous faites pareil, les copains? Je leur dis, est-ce que vous pensez? Je pense que c'est un peu le but de cette improvisation que je défends. Se remplir. Comme ça, de beaucoup de choses, hein, il y a pas que la musique, il y a tous les événements, il y a toute la vie, il y a tout ça qui est mélangé. Tout est mélangé, c'est pas uniquement que de la musique. Tout, j'avale tout. Les événements d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, ça rentre, c'est ça. Donc là, je me suis dit, là, je suis prêt. Parfois, je ne suis pas prêt. Alors là, je suis fatigué, j'ai pas envie de jouer, voilà. J'y vais quand même, mais je dis toujours, là j'ai fait des tissus de mensonges, c'est pas possible, je n'ai fait que mentir. Et là je suis très malheureux, voilà.
Ça vous fait rigoler, Yaron Herman, c'est la voix de Michel Portal.
Ah oui, je reconnais, il me tue, j'adore.
2015 au micro de Laure Adler dans l'émission Hors Champ sur France Culture, et juste avant on entendait Songs of the Grease, c'était un extrait qui donne le titre à votre dernier album paru chez Blue Note. Il dit plein de choses, Michel Portal, et on pourrait presque tout recomposer dans un autre poème. Je cherche de la lumière, surtout de la lumière, je veux le corps, je veux tout en entier, et parfois ça marche pas, je fais un tissu de mensonges. Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Est-ce que vous le savez maintenant après 22 ans de musique, 22 ans de piano?
Si je savais ce que je cherchais, je risquerais de le trouver. Et du coup, ça serait pas fun. Je pense que la seule manière, c'est de chercher. Après, ça a l'air un peu...
Talmudique.
Ouais, c'est dans l'herméneutique, en fait, que la solution se trouve. Le jour où on sait exactement ce qu'on cherche, qu'est-ce qui se passe après? Donc, il faut chercher autre chose. Donc l'idée, pour rester créatif, il faut toujours chercher, mais c'est pas chercher pour trouver, c'est chercher pour chercher. Donc du coup, c'est ce processus qu'en le pratiquant, on revient à chaque fois sur cette idée d'élévation, mais on s'élève en cherchant, en travaillant la matière encore et encore, en revisitant, en faisant cette fameuse spirale. Il y a une phrase magnifique de Jung que j'adore, et il dit: le seul véritable changement, c'est ne rien changer, sauf son point de vue.
Carl
Gustav.
Et du coup, vous tournez et vous évoluez sur le cercle des points de vue.
J'ai revisite en permanence.
Michel Portal, il dit aussi: parfois je me demande, et je demande aux gens qui travaillent avec moi, s'ils sont pleins de musique, ou ils sont vides de musique, ou s'ils sont peut-être pas assez rempli de musique. Est-ce que vous voyez les choses un peu de cette manière-là, Yaron Herman?
Je vois exactement ce qu'il veut dire.
Ah ouais, mais genre comme quoi? Comme la quantité de liquide qu'on a dans le corps, quoi? Quelque chose comme ça?
Non. Je pense qu'il pense pas en termes physiques. C'est-à-dire que la musique n'est pas les notes. Est-ce que je suis plein d'informations? Je suis pas sûr que l'information technique ou l'information de répertoire ou voilà, c'est l'équivalent de la musique avec un grand M. Pour moi, et je pense que Michel, après l'avoir côtoyé un certain temps et joué avec lui, et beaucoup discuté avec lui, c'est la chose qu'on ressent d'ailleurs en premier quand on parle avec Michel, c'est cette passion qui l'anime. Donc la musique vient d'une nécessité intérieure. Est-ce que j'ai une nécessité d'amour? Est-ce que j'ai cette, quelque part, cette source en moi qui jaillit, qui fait en sorte que quelque chose doit apparaître, être à part, c'est-à-dire se séparer et sortir? Donc, dans ce sens-là, je suis complètement d'accord avec Michel.
Est-ce que il avait aussi une manière de parler de ça, dans la recherche de lumière, dans le fait que est-ce que les gens sont remplis ou pas remplis de musique? On croit peut-être dans l'archive pour choisir les gens avec qui il en fait. Est-ce que ça participe de votre choix, Yaron Herman, de savoir est-ce que vous avez un radar aux gens suffisamment remplis de musique pour faire de la musique avec vous?
J'aimerais bien croire que oui. J'aimerais bien croire que le résultat musical reflète ce choix. Et évidemment, c'est hyper important de choisir des personnes qui comprennent le pourquoi et ensuite le comment de ce que je souhaite exprimer et qui partagent la même vision et qui humainement ont aussi cette volonté d'aller au-delà des apparences, aller au-delà de l'ordinaire et accepter de partir dans une autre dimension, dans l'inconnu et partir à l'exploration. Et sur cet album, avec Ziv Ravitz à la batterie et Sam Inai à la contrebasse, on s'est tous les trois engagés très 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 intensément et personnellement, chacun de son côté et collectivement, dans ce voyage.
Tout à l'heure, on parlait du rapport au langage et aux mots, mais ça, comment ça se passe? Vous dites on s'est engagé, vous êtes dit des choses ou vous êtes simplement rentré dans une pièce, vous avez commencé à jouer et vous êtes rendu compte que okay, c'était les débuts pour un engagement musical?
Disons que individuellement, j'ai une histoire avec chacun d'entre eux qui déjà donne un peu un background sur la suite des événements. Avec Ziv, c'était une rencontre, une évidence absolue dès la première note qu'on a jouée ensemble.
C'était quand?
C'était il y a 8 ans. Quelque chose comme ça. Et voilà, c'est hallucinant. C'est, enfin, avec lui, c'est... Je perds mes mots. C'est... Comment décrire ça? Michel, aide-moi si t'es là. C'est un miracle. C'est vraiment un miracle. C'est-à-dire que parfois, il comprend ce que j'ai envie de jouer mieux que moi. On tombe sur les mêmes accents. Enfin, on se regarde aussi. Mais comment tu savais que j'allais faire ça? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu suspect. C'est inquiétant. Parfois, je le regarde, je me dis, tu m'inquiètes.
Ça dépend si tout est mathématique.
Je pense que là, c'est plutôt de l'intuition qu'ensuite on pourra expliquer par les maths, etc. Mais là, c'est une intuition, une espèce de connexion particulièrement suspecte, mais heureuse. Donc, je suis très content. Je ne pose pas de questions. Juste, keep doing what you're doing, comme on dit. Voilà. Donc, change rien. Avec Sam, j'ai une rencontre un peu plus récente. D'ailleurs, c'est Ziv qui a fait l'introduction. Je connaissais sa musique, son jeu, etc. Mais on avait moins de temps d'établir ce rapport très personnel, puisque on a fait un ou deux concerts ensemble avant d'entrer en studio. Et c'est vraiment au studio que j'ai découvert l'amplitude de ses capacités musicales et humainement.
Qui se rejoignent toujours ou pas?
Non, c'est un mythe. Non, il y a des gens qui sont vraiment des connards et qui jouent extraordinairement bien.
Ouais, c'est ça. C'est super agréable de jouer avec eux, mais c'est infernal dès que c'est la fin du concert.
Exactement.
Mais comment on fait pour oublier que ça a été ce fameux connard juste avant la prise?
C'est difficile, mais quand la musique commence, c'est un autre langage. Donc, il faut parfois dissocier l'artiste et l'œuvre.
Puisque vous parlez du studio, Yaron Herman, il faut dire que c'est un disque non seulement qui vous fait renouer avec la forme du trio, mais on y reviendra, mais qui vous fait aussi renouer avec une forme de tradition des disques de jazz enregistrés hyper rapidement dans un seul studio, parfois mythique et où les gens dorment. Je ne sais pas si vous avez dormi dans celui-ci, mais c'était très court.
Disons, on avait plusieurs jours, donc la session a duré 3-4 jours. Mais contrairement à mon habitude, j'ai décidé de faire cet enregistrement comme un live set, un set live, comme un concert en fait. On faisait des prises dans la journée quand même parce que il faut quand même assurer les arrières. Et le soir, on s'est dit, on fait une set list et on part à l'aventure comme un concert normal. On n'arrête pas, on se parle pas. On trace, on imagine les applaudissements, chacun fait ce qu'il doit faire. Et souvent, on a relié les morceaux avec des interludes totalement improvisés, dont le titre Crazy Cat, qui se trouve sur l'album, qui est en réalité un titre qui dure 45 minutes, qui a été un peu découpé pour voilà entrer dans la playlist, être un peu plus mieux agencé dans la narration.
Donc ça veut dire qu'il y a des morceaux que vous jouiez de soir en soir et qui bougeaient, parce que vous refaisiez le concert tous les soirs.
On a fait ça 3 soirs. Et on a fini par garder le premier soir.
Tout entier.
Tout entier. Il y a un morceau qui est en réalité le premier morceau que nous avons joué en arrivant dans le studio, en se disant, oh bon, on fait un peu de son? Allez, on fait un peu de son. Et c'est Shadow Walk. Voilà, c'est le premier morceau qu'on a enregistré.
Michel Portal disait, parfois ça marche pas et je livre un tissu de mensonge. Un tissu de mensonge. Est-ce que ça vous parle?
Évidemment, c'est des choses qui me parlent. On n'est pas toujours en méga, méga hyper forme. Et c'est vrai que les gens ont cette image de l'artiste qui débarque et il est génial tout le temps. Mais on est des humains. Donc parfois on est plus concentré. Parfois on a des choses de la vie profane qui affectent notre concentration, notre envie, etc. Et il faut aller chercher, aller puiser dans les ressources intérieures des choses à dire, quoi, des choses à faire. Quand il parle d'être plein de musique, parfois on est vidé par. Enfin, imaginez que vous faites une tournée de 17 dates d'affilée tous les soirs dans une autre ville. Donc dans un monde idéal où vous ratez jamais l'avion, que votre valise arrive tout le temps, que vous êtes toujours dans les palaces, choyé par des danseuses brésiliennes et je ne sais quoi. Bon, ok, c'est gérable.
Ou d'autres choses.
Ou d'autres choses, ouais, un peu moins misogyne et voilà. Hashtag MeToo.
Super.
Oui, mais on ne peut plus faire des blagues.
Non, moi j'adore les blagues.
Ah, très bien.
Ah non, j'adore.
Et donc, même ça risque d'être très très difficile de monter sur scène tout le soir et produire des œuvres absolument géniales systématiquement. Donc imaginez si vous perdez votre valise, vous ratez l'avion, vous arrivez 5 minutes avant de monter sur scène. Donc il n'y a pas de règle. Souvent dans des situations comme ça, on fait le meilleur concert. Mais en règle générale, il se peut que parfois on est obligé d'un peu raconter...
Des bobards, ça joue comme ça, ouais. Ça joue sur tissu de mensonge. Ça veut dire quoi, Yaron Arman, que vous faites avec ce que vous savez bien faire?
Non, parce que ça veut dire que parfois, on peut tomber dans la facilité. Après, c'est imperceptible. Concrètement, c'est imperceptible pour l'auditeur.
Who knows?
Maybe a few of my ex-girlfriends. Mais globalement, c'est inaudible. Et des amis proches qui me disent, bon, hier, on a ce soir, franchement... Mais voilà, c'est assez inaudible. C'est nous vis-à-vis de nous-mêmes.
Et c'est important.
C'est quand même... Ouais, c'est fondamental.
Le jazz me donnait l'exemple de la mélodie de mon temps, c'est-à-dire de la mélodie de mon époque, c'est-à-dire de quelque chose dans lequel je pouvais puiser, qui disait le drame qui est le nôtre. Et c'était, par exemple, le Body and Soul de Coleman Hawkins, c'est 3 minutes de mélodie pure, morceau à partir duquel un écrivain peut travailler toute une vie pour le transférer dans son écriture, ou au moins, en travaillant, l'avoir en tête pendant toute sa vie. Je pense que la mélodie, c'était quelque chose que l'Amérique a donné au XXe siècle, que le jazz, la mélodie intérieure du jazz, a la qualité de tristesse qui est celle de notre époque. Le jazz aussi fournit une tristesse, et pas n'importe laquelle, et donc on se trouve une tristesse, parce que la tristesse, on la sent, mais on la cherche. Et on l'identifie dans le jazz, et on peut la transférer. Donc la tristesse mélodique, même quand l'air est gai, il y a une tristesse mélodique dans le jazz. Et le fait de pouvoir élaborer quelque chose qui ne repose sur rien, rien, qui est le propre de la grande poésie. C'était d'autant plus actuel pour moi que, je parle du jazz toujours, bien sûr, que ça s'élabore dans le temps, que ça dit simultanément, j'ai tout le temps et j'ai pas le temps. L'écriture, pour moi, est une expérience tout à fait comparable à ça. C'est-à-dire quelque chose dont je voudrais que cela dure éternellement et que je n'arrive pas à faire durer. Ce côté aussi, tout en même temps, à plein, à bloc, dès la première minute. Autrement dit, toutes les propositions sont livrées. Quand Clifford Brown démarre quelque chose, par exemple, tout son orchestre démarre, tout en même temps, toutes les données, toutes les charges, dès le premier instant. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin non plus. Monk ne commence jamais et ne finit jamais. Quand on écoute Monk, il ne dit pas attention, il n'y a pas une gradation, trois petits pas, puis ensuite on prend son élan et on se met à courir. Non, c'est à bloc dès le départ. Et ça aussi, j'ai essayé de faire ça dans mon écriture. De donner un à bloc dès le départ et puis pas de fin. On s'arrête. Aussi, la beauté du son indépendante de toute chose à signifier. Les grands airs de jazz, enfin, pas tous, là, enfin, certains grands airs de jazz ne racontent rien que la beauté du son qu'ils mettent en œuvre.
Ne rien raconter que la beauté du son mise en œuvre, c'est Dominique Fourcade dans l'émission Le Bon Plaisir en 1993 sur France Culture, Yaron Herman, qui dit comme à son habitude beaucoup de choses. D'abord, ce qu'il raconte de la mélodie, de sa perception de la mélodie dans le jazz, il dit que c'est une invention américaine. La mélodie, c'est quelque chose qui est présent dans votre travail, dans votre musique, aussi dans les incursions que vous faites du côté de la pop, parfois même dans l'histoire que vous racontez. Je me rappelle d'un album qui partait sur la piste du Lapin Blanc de Lewis Carroll. Vous avez quoi comme rapport au fond avec ça, avec ce que c'est qu'une mélodie, Yaron Herman ?
Déjà pour commencer, je ne pense pas que la mélodie est une invention américaine, ni que les mélodies de jazz ont quelque chose de profondément triste, même quand elles sont gaies. Je n'ai pas attendu le jazz pour être triste. Et je pense que le jazz n'a pas de monopole sur l'émotion de manière générale et toutes ses déclinaisons. Mais mon rapport à la mélodie, disons que voilà, personnellement, dans ma façon de concevoir le discours musical, j'aime bien qu'on raconte quelque chose. Pour moi, la mélodie est une façon de créer une narration, de raconter une histoire qui évolue, qui a des graduations, des différents niveaux de lumière, de rythme, etc. Donc pour moi, c'est indispensable.
Passe toujours par là. Un morceau naît toujours d'un bout de mélodie.
Disons que la mélodie, en réalité, n'est jamais vraiment dissociée de l'harmonie ou du rythme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rythme, c'est des notes qui ont une durée indéterminée. Donc voilà, donc c'est comme une photo sans cadre, ça devient la réalité en fait. C'est juste une masse non distinguée. À partir du moment où on commence à la mettre en forme, à mettre de l'ordre dans le chaos, où elle prend forme, elle commence à être perceptible et digérable et compréhensible à l'oreille humaine.
Vous les notez ? Vous les écrivez ?
Je les écris, je les enregistre sur mon iPhone, je les chantonne sous la douche, tous les moyens sont bons.
On entendait aussi l'évocation de Monk qui joue sans début ni fin. Et tout à l'heure, Yaron Herman, vous parliez d'un certain rapport à l'infini. Vous, un morceau qui commence, il commence. Il n'est pas là sans début ni fin ?
Après, c'est une question philosophique. Où est-ce qu'on met le début et la fin ? Je pense, au contraire, que dans le discours du jazz, il y a évidemment un début et une fin. D'ailleurs, on travaille souvent sur la narration, c'est-à-dire que ne pas arriver à déverser un peu toute l'information d'un coup, il y a quand même des motifs, comment ils se déploient dans l'espace. Je pense qu'au contraire, par contre, dans l'énergie, évidemment, l'énergie qui est dissociée du discours, c'est-à-dire au-delà des notes, de l'expression physique, de la manifestation physique du discours musical, l'énergie déployée commence à bloquer. Cette concentration, cette intention intense, cette ultra-présence dans l'instant présent, et en effet, les musiciens de jazz appellent ça « in the zone ». Il faut entrer in the zone.
The zone, dans, c'est la zone. Dans la zone. Dans l'endroit, quoi.
Ouais, c'est pas une zone industrielle à l'extérieur d'une petite moyenne ville. Mais c'est un état dans lequel on est dans un flow.
Vous claquez des doigts, ça veut dire qu'on peut y entrer comme ça? Comme dans la piscine?
On peut. Si on travaille pendant des années de façon obsessionnelle et méthodique, et avec la connaissance des outils et les portes d'entrée, les clés qui permettent d'ouvrir ces portes d'entrée, etc., dans des situations, parce que la porte se trouve jamais au même endroit. Donc la réponse est oui. Et quand on voit ce qui fait la différence entre les musiciens qui sont bons et les maîtres, c'est que le maître et on peut traduire ça comme la beauté du son, etc. Dès qu'il y a une note qui est jouée, on est déjà transporté. On se dit, mais attends, il y a une seconde, cette scène-là n'était pas pareille que maintenant, et il suffit d'une note pour que moi, je change de dimension en écoutant cette note. Donc, on lui, enfin, le musicien, l'artiste, quand il arrive à se provoquer en lui-même cette sortie de la normalité, de rentrer dans une dimension parallèle, automatiquement, les auditeurs, j'aimerais bien en tout cas croire que ça marche comme ça, de mon expérience, c'est plutôt proche de cet été-là, il y a comme une parenté immédiate, il y a une connexion avec tout ce qui se passe dans la pièce.
J'en suis absolument convaincue. Vous travaillez encore comme ça, Yaron Herman ? Vous dites travailler de manière obsessionnelle, acharnée, beaucoup.
Oui. Oui, oui. Ben, il n'y a pas mille manières d'y arriver. Je pense que...
Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un jour où on peut un petit peu se reposer sur ses acquis.
Non, parce qu'il n'y a pas d'acquis. Les acquis sont acquis, d'ailleurs.
Celui-là, je l'ai, ce jeu de mots-là, enfin, référence aux auditeurs qui étaient avec nous tout à l'heure.
Non, il n'y a pas d'acquis. Les acquis, on les perd très vite, en tout cas. C'est comme des plantes. Si on se dit, ah non, c'est bon, c'est vert, on peut arrêter de les arroser.
Elles meurent.
Voilà, c'est la même chose. Thank you.
From the Sun. C'est le dernier extrait. Non, c'est un extrait de votre disque Yaron Herman qu'on écoute encore. Songs of the Degrees, pour parler de cette batterie presque grasse et lourde qui l'ouvre. Et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au tout début de l'entretien, l'idée de l'élévation, mais qui va presque avec ce morceau-là vers le bas. Ce serait une élévation, mais qui creuse d'une certaine manière avec la batterie. Comment est-ce que vous lui dites de jouer? Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que vous lui dites, joue comme ça, s'il te plaît?
Non. Je pense que l'avantage de travailler avec des musiciens qui ont une vision semblable, c'est qu'ils savent. Ils savent quoi faire. Et souvent, quand j'essaie d'imposer une idée, c'est pas la bonne. Ou on se rend très vite compte que je lui dis, en fait, tu sais quoi? Fais ce que tu entends. Et très très souvent, ce qu'il entend est juste. Donc,
Et vous, vous entendez quoi?
Pardon?
Et vous entendez quoi quand vous écoutez ce morceau, par exemple?
c'est difficile à dire. J'entends tout. J'entends tout. Et le tout est dans le tout.
Pourquoi ça s'appelle From the Sun?
Alors, ce morceau-là, même si voilà, il y a ce côté un peu terrien, un peu gras dans la batterie, mais très aéré. Donc c'est un peu la sensation que j'ai parfois quand je suis allongé au soleil. Et il n'y a pas de soleil, en fait. Et à un moment, il y a un rayon qui surgit des nuages et qui me caresse l'avant-bras. Je me dis, oulala, il se passe, ah là, ça c'est bon ça. Ça c'est cool, merci soleil. Merci d'être venu me rendre visite. Donc c'est un peu cette sensation-là de quelque chose qui était toujours là, mais que je ne l'ai pas vu. Il suffit voilà, d'imaginer que le soleil est tout le temps là pour qu'il fasse beau tout le temps.
Tout à l'heure, je parlais en introduction d'un journal des émotions. En fait, on est plus juste si on parle d'un journal des sensations, Yaron Herman, pour ce disque-là.
J'associe les sensations à quelque chose de plus physique que les émotions. Mais dans le sens que de toute façon on a, le corps réagit souvent aux émotions, donc ça crée des sensations. Ok.
C'est super, on est d'accord. Songs of the Degrees, c'est le titre de ce disque qui paraît chez Blue Note et qui vous emmènera en concert, par exemple à Enghien-les-Bains le 5 avril prochain, à Nice le 6 avril, au Trianon à Paris le 10 avril et ensuite sur la route des festivals d'été comme on dit. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On termine avec un dernier extrait. Au son ce soir, c'était Lucas Derode à la réalisation, Massimo Bellini. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et ou vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Romain Debecq de Lièvre, à Jeanne Aléos, à Lou Quevauvillé, Marianne Chassor, qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, vous retrouvez le journal sur France Culture. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à lundi.
Thank you.